J'aimerais vous proposer ce soir une réflexion un peu plus technique sur l'approfondissement de la concentration, des différents états de concentration que nous pouvons rencontrer sur le chemin lorsque nous appliquons sérieusement la conscience à la respiration, au corps et à l'expérience. Dans le chemin octuple, qui est ce que le Bouddha propose comme moyen pour arriver à l'éveil, il y a ces trois qualité à développer: l'éthique, la pratique et la sagesse. Comprendre dans quelle direction va le travail, s'appliquer à l'exercice et ne pas mettre en place trop de paroles et d'actes qui impliquent le remords parce que la pensée devient très agitée. Et l'aspect de la pratique est défini en trois mouvements: la concentration, la pleine conscience et l'effort sage. Et l'effort sage, c'est de savoir quand orienter plutôt vers la concentration, quand ouvrir plutôt à la pleine conscience, ou quand employer certains outils de sagesse que nous avons. Donc on pourrait dire que l'exercice de la méditation, c'est de remplir une boîte à outils de choses différentes et d'avoir la sagesse de savoir lequel prendre, à quel moment. Et c'est clair que les choses sont définies de cette manière dans le chemin octuple, mais on ne peut pas vraiment le séparer. C'est comme quand on fait un cake, on met des œufs, du sel, de la levure, de la farine, et puis tous ces ingrédients servent à fabriquer le cake. Mais sans l'un, l'autre ne peut pas fonctionner sans l'un. La levure ne peut pas fonctionner sans les œufs. Donc si vous voulez, c'est une séparation un peu artificielle, mais qui est très utile parce qu'à certains moments dans notre exercice, dans cette quête d'effort sage, si nous restons avec la pleine conscience, alors que ce qui est demandé, c'est de la concentration, on souffre, on sent que c'est pas juste, et vice versa. Le but de tout ce développement méditatif, il n'est pas au fond lié à une expérience, il est plutôt lié à une énergie. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? C'est intéressant ça. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? C'est pas possible de le dire, hein, mais on peut sentir que, en tout cas, je suis pas libre si le corps est tout tendu, s'il a mal, alors que si je suis libre, le corps est souple, est vivant, est ancré, mais en même temps léger. Le cœur, il est comment si dans cette énergie éveillée, il est ouvert, confiant, bienveillant, accueillant? Le mental, il est simple, clair, les choses sont en place, mais elles peuvent bouger. Et la conscience, elle peut parfaitement vivre le paradoxe sans problème. Elle peut être spacieuse, en même temps intime. L'effort, la concentration et la pleine conscience sont appelés samma. Le mot samma en pali veut dire, on le traduit par juste ou sage, mais ça veut dire qu'il unifie, mais aussi qu'il lâche ou qu'il sait lâcher. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous appliquons la concentration, la pleine conscience, que nous travaillons l'effort sage dans un seul but. C'est le lâcher prise du moi. Et le lâcher prise est de la concentration, est de la pleine conscience. Ce ne sont pas des choses à acquérir à jamais. Ce sont des outils pour le lâcher prise du moi. Au fond, pour nous préparer à la mort. Parce que la mort, ça n'est pas la mort. Nous croyons que c'est la mort, mais la mort, c'est la vie. Et si nous croyons que la mort, c'est la mort, eh bien notre vie devient morte. C'est ce paradoxe. Parce que la peur nous rend petits. Donc c'est important, lorsque nous travaillons la concentration, de comprendre aussi le but. Et quand nous appliquons à garder la respiration en conscience, au niveau des rencontres de l'ombre, ce sont d'abord les obstacles qui émergent, ensuite les émotions perturbatrices. Et quand nous avons appris à rencontrer toutes ces émotions de peur, de colère, de tristesse et de frustration, c'est les trois grandes catégories, disons, accompagnées du jugement et de la dévalorisation au niveau conceptuel, eh bien nous pouvons commencer à nous attaquer au karma. Et le karma, c'est encore un autre paquet. Les obstacles ne sont pas de petites énergies. Ce sont des énergies puissantes et pour les dépasser, il faut vraiment appliquer la conscience au corps, faire acte de connaissance au niveau conceptuel. Et il y a cinq aspects ou cinq états de concentration que nous pouvons reconnaître. Le premier, ce qu'on appelle l'effort initial. Au niveau du travail, c'est cet aller-retour entre être là, plus être là. Partir dans le sommeil, revenir, avoir de l'aversion, revenir, du doute, ça vient, ça part, c'est un peu confus, pas très clair. Et nous luttons beaucoup avec les rêveries et où la somnolence, la torpeur, la somnolence physique. Et comme nous sentons le bienfait de continuer l'exercice, même si il est un peu fastidieux, que nous sentons que les plaisirs exotériques, c'est une chose, mais qu'il y a peut-être des plaisirs ésotériques encore plus ravissants, alors nous continuons le travail. Et ce qui se passe, c'est que la somnolence devient s'estompe, la conscience devient plus alerte. Le j'aime, je n'aime pas est connu, je lui donne moins de poids. Je sais bien que je vais toujours aimer certaines choses, pas en aimer d'autres. C'est bon, j'ai compris, tout va bien. Et alors, ce qui se passe, c'est que une ouverture se fait entre la conscience et l'objet, et au lieu que je doive toujours moi faire l'effort, Le moi commence un peu à lâcher et l'intelligence intuitive se développe un peu et je peux de temps en temps sentir ce que c'est que d'être sans effort. L'effort du non-effort. Les douleurs du corps en général s'en vont parce que quelque chose s'ancre dans une tranquillité, le corps acquiert un certain confort au lieu qu'il soit toujours un peu dans l'anticipation ou dans pas vraiment bien intérieurement. Tout d'un coup, ça se pose. Le corps peut, ou plutôt la conscience peut contempler le corps sans devoir toujours faire un effort. L'effort est. C'est plutôt un souvenir d'être là. Et le doute s'en va. Quand le corps devient tranquille et confortable et que la conscience l'habite mieux, il n'y a plus de doute. L'état d'être s'installe un peu. Mais quand ça passe, l'aversion revient, le désir. Et l'attention reste fortement ancrée ou fortement intéressée par l'objet de conscience. Quand j'ai le bon objet, ça y est, j'y suis. Quand c'est un autre objet, waouh, j'y suis pas. Donc la souplesse n'est pas encore totalement là. C'est avec l'aspect suivant qu'on appelle intérêt ou joie, qui est d'ailleurs aussi un facteur de l'éveil, que ce lien entre la conscience et l'objet devient totalement souple. Et au niveau de l'expérience, on pourrait dire que c'est l'expérience de l'impermanence. Je mets au même niveau tous les objets de conscience, que ce soit une pensée, un son, la vue de quelqu'un, ma main ou ce truc-là que d'habitude j'aime pas tellement. Là, tout d'un coup, tout va bien, une chose, l'autre. Que ce soit intérieur, extérieur. En fait, c'est une découverte de l'effort sage en lien à l'objet de conscience. Au lieu que je fasse toujours durer un peu ce que j'aime bien et puis que j'évite un peu ce que j'aime pas, chaque objet est vu pour ce qu'il est. Et ça fait quelque chose de très plaisant. Je me souviens. Dans une retraite, j'avais vécu un truc très assez chouette parce que voilà, je vivais ça. Il y avait un papillon, après je sentais mon pas, après un peu ma respiration, après un son, après il y avait une pensée, après il y avait ci et ça. Puis tout d'un coup, ce qui vient, c'est aversion. Ah ouais, alors je dis aversion, aversion. Puis ça continue, aversion, aversion. Puis je me dis, tiens, c'est bizarre, ça continue cette aversion, ça passe plus. Pourquoi ça colle? Et puis je me suis arrêtée, j'ai pris un petit moment d'investigation. Et en fait, j'avais loupé un coche, j'avais été trop vite, j'avais pas le bon objet de conscience, j'avais juste le suivant. C'était pas de l'aversion, c'était le désir pour un thé. J'avais un désir pour un thé que j'avais pas conscientisé. Et du coup, ça m'a mis dans l'aversion pour l'exercice. Et ce n'était pas la version pour l'exercice, donc ça collait. Et c'est génial parce que ça fonctionne comme ça. Si je n'ai pas le bon objet de conscience, si je reste par exemple avec la respiration, alors que ce qui m'appelle, c'est du doute, eh ben, je souffre. Ça colle, l'objet colle. Et la souplesse de la conscience m'est enlevée. C'est ce qu'on appelle en pali piti. Ça donne une fraîcheur, une légèreté, J'ose m'exposer, j'ose voir des choses un petit peu difficiles. Et elles ne prennent pas une couleur redoutable, parce que la pleine conscience commence à activer son rôle purificateur. La pleine conscience, c'est vraiment une puissance pour permettre de laisser être qui est précieuse. Et c'est dans ces moments-là aussi que nous osons nous exposer plus à aller voir ce qui est difficile sans être submergé. Je vous raconte deux, trois petites histoires. Un coup, je méditais, c'était où ? C'était en Suisse allemande. Et puis avec Ajahn Sumedho. Et puis Ajahn Sumedho, c'est il y a longtemps, c'était un assez jeune moine. Il marchait, il faisait sa méditation, marchait 25 pas. Puis c'était un truc un peu comme ça en escalier. Puis moi, je faisais ma méditation, marcher en dessus. Et puis, je sentais que j'avais peur de ce moine. Ouh, il m'impressionnait, j'avais peur. Et puis quand il marchait, on n'était pas tellement loin, un peu là en dessous de l'autre, comme ça, quand il s'approchait de moi, je sentais, oh, ça chauffait. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, j'ai bien senti comme ça chauffe, je vais aller voir comme ça chauffe plus. Si je descends un petit peu plus bas, puis je vais sur l'espalier suivant, je serai un peu plus près. Alors je me mets à descendre l'escalier, puis voilà qu'il décide de le monter. Alors moi, je descendais, puis lui, il montait, et la rencontre était inévitable, à moins que je perde la face en tournant le dos, puis en fuyant en courant. C'était dur, hein, entre Caribe et Scylla, là, je ne savais pas trop bien quoi choisir. Puis je me suis dit, bon, ben ma foi, vas-y. Et c'était fabuleux, parce que son visage est devenu comme un lion, physiquement, hein, je voyais un lion, et puis je m'approchais, j'étais dans un état, je vous dis pas. Eh bien, j'ai traversé le... j'ai passé à côté du lion, il ne m'a pas mangé, mais... Et c'est vrai que de se laisser sentir cette peur qui... Je ne peux pas avoir un ancrage au corps dans ces moments-là, mais je peux sentir le corps qui est complètement vibrant, qui est complètement... paniquer, la panique est physique. Et sur le moment, la conscience est trop collée à l'objet pour que je puisse vraiment me dire « Ah tiens, il y a ça ». Mais après coup, c'est bon de se le dire. Le quatrième aspect, c'est un état de non-intérêt ou moins focalisé sur l'objet. Le monde commence à être lâché un peu. Et c'est la conscience qui devient prioritaire. Donc ça donne un lien à la conscience qui est un lien d'intimité et ça crée une forme d'exaltation, un plaisir intense, mais totalement calme. Un grand calme, mais en même temps la conscience est alerte, donc c'est en même temps brillant et posé, extrêmement bienfaisant, quelque chose un peu hors du temps, comme si ça pouvait durer à jamais, comme si... quelque chose s'est arrêté. Le corps est là, l'espace, le silence. Quelque chose est large. Et dans l'intérêt pour l'objet, quand la conscience peut se lier à l'objet dans son impermanence, c'est la fin de l'aversion. J'ai vraiment de l'intérêt pour tous les objets de conscience qui émergent. Et dans cette qualité de bonheur, on appelle ça le bonheur plutôt que la joie, c'est la fin du désir. Il n'y a aucun désir parce que tout s'est arrêté. C'est une grande stabilité d'esprit. Les commentaires, il peut y avoir de temps en temps un commentaire, mais il n'a aucun poids quelconque, parce que la conscience est tellement vibrante que le commentaire est comme annulé par la conscience. Et le cinquième aspect qu'on appelle Ekagata, ou unification d'esprit, c'est intéressant parce que c'est quelque chose, l'intensité de conscience lâche, ça redevient relativement ordinaire, mais un ordinaire ancré est simple. L'unification d'esprit, c'est une grande simplicité. L'agréable et le désagréable n'ont aucune importance quelconque. C'est un renoncement, d'une certaine manière, à faire les choses dans un but quelconque. C'est un état de gratuité, de jeu, mais qui est pas, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu vide. Je me souviens dans une retraite, à un moment donné, pendant 15 jours, c'était tout simple. Voilà. Et puis à un moment donné, c'était toujours pareil, ça n'allait plus. Tout était tout pareil, mais ça n'allait plus. Puis je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il n'y avait plus. Et puis j'avais été parler à l'enseignant, puis elle m'avait juste dit, mais je crois que c'est juste un peu neutre. Et c'est vrai, c'était devenu neutre, c'était devenu ordinaire. Et comme l'esprit a tendance à s'attacher, tout autant aux états spirituels qu'aux états autres, je ne pouvais pas reconnaître le neutre. Donc il y avait une séparation entre l'expérience et le mental. Et ça crée un petit malaise comme ça. Et quand j'ai pu me dire, oh ben, c'est juste ce tour devenu ordinaire, j'ai absolument pas besoin d'un truc brillant, chouette, pas du tout, c'est tout bon cet ordinaire. Eh bien, c'était nouveau, ok. C'était nouveau, ok, mais très simple, très. Aucune intensité. Mais la non-intensité, c'est drôlement bon. Dans l'ordinaire, nous recherchons beaucoup l'intensité de plaisir, d'agréable, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance. Et quand nous entrons dans ces plaisirs plutôt spirituels, ce qu'on peut voir, c'est que nous mettons en place exactement le même mouvement d'attachement et d'enchantement. Mais nous avons des outils qui deviennent plus pointus pour pouvoir le voir. Les obstacles disparaissent parce que nous arrêtons de tout commenter. Les commentaires, c'est la première protection du moi contre le lâcher prise, contre l'ouverture de conscience. Et c'est important de savoir que ces commentaires ne sont absolument rien, ils sont sans substance. Bien sûr, s'ils nous disent blanc, on ne peut pas les créer noirs. S'ils sont là, on ne peut pas faire qu'ils soient loin. Mais à force de nommer gentiment commentaires et de les lâcher, commentaire et de les lâcher et encore commentaire et commentaires, et commentaires, et commentaires. Eh bien, la conscience s'approfondit. Et c'est là que le lien entre pleine conscience et concentration est important, parce que quelquefois nous devons fermer les portes et les fenêtres. Quelquefois, je ne vais focaliser l'attention que sur un point. En général, on prend la respiration, mais ça peut être les sons, ça peut être la marche, ça peut être des paroles de bienveillance. Je ne fais que ça, à l'exclusion de toute autre chose. Et quand un commentaire vient, bien sûr, je nomme commentaire, mais je reviens tout de suite à l'objet de conscience. Donc j'évite que l'esprit ne parte dans le concept ou que le concept n'envahisse l'esprit. Et je fais ça sans trop forcer, mais je fais ça clairement. C'est la pleine conscience qui voit les commentaires. Mais je ne mets pas ça en priorité. Et de temps en temps, eh ben, j'arrête la concentration. Et je reste simplement avec un espace de réceptivité de l'expérience telle qu'elle est. Et selon les personnes, selon les enseignants, selon les traditions, l'un est plus développé que l'autre. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que l'éveil arrive? C'est très mystérieux. Ça arrive avec des techniques complètement différentes, des traditions complètement différentes. Probablement que l'intention est très importante. Le temps que je passe pour l'aspiration qui est la mienne. Et puis, comme dit le Bouddha, il y a ceux qui vont lentement avec beaucoup de douleur, c'est les grands déboleux. Il y a ceux qui vont lentement sans douleur. Il y a ceux qui vont vite avec beaucoup de douleur, et puis il y a ceux qui vont vite sans douleur. Vous voulez être lequel? Chaque fois que le Bouddha parle de ce qu'on appelle les jhanas, ce que je viens de vous partager, c'est le premier jhana. Et dans le vipassana, nous n'allons pas dans les jhanas, nous restons au premier jhana, ce qu'on appelle la concentration d'accès. Il finit toujours ses explications en disant « Mais la sensation de plaisir qui émergea de l'exercice n'envahit pas son esprit et ne s'agrippa pas. » Et ces plaisirs spirituels ne viennent que pour cette raison-là, que pour que j'apprenne ce que c'est que le lâcher-prise. Et forcément, comme ils sont particulièrement intenses, le travail s'approfondit. Et peu à peu, nous nous rendons compte que quand je dis « ça y est, j'y suis » et que je veux garder, eh ben j'y suis plus. Et alors ça se passe de moins en moins. Les plaisirs spirituels sont impermanents et ils créent une certaine déception quand ils s'en vont. C'est intéressant. Deuxième vérité, la cause de la souffrance, c'est le désir. Le désir d'avoir, de garder, de... C'est les zen qui disent « Vous ne pouvez pas rester au sommet à jamais. Il faut un jour redescendre. Quelqu'un grimpe et voit, puis il redescend et ne voit plus. Mais il a vu. Il existe un art de se diriger soi-même par la mémoire de ce que nous avons vu plus haut. lorsque nous ne voyons plus, nous en avons encore au moins la connaissance. Et peu à peu, nous nous rendons compte qu'il n'y a rien de meilleur que l'abandon. Le geste de l'abandon, c'est ce qui est le plus profondément bénéfique, même pour le moi. Mais il lui faut un peu de temps pour y croire. C'est Suchito, je crois, qui dit « Tout désir est une inclination vers le non-désir, vers la vérité. Quand vous voulez quelque chose, ce que vous voulez, c'est le sentiment de ne plus vouloir puisque vous l'avez. » C'est ça qui est bon. Et avec les commentaires, les choses se transforment aussi tranquillement. Parce que j'apprends à les voir, parce que je vois cette impermanence où quelquefois l'esprit est tranquille, calme, et après, voilà de nouveau l'agitation, je commence à arrêter de paniquer, je vois que de toute façon ça change. Et du coup, les commentaires lâchent parce que la conscience grandit. Ajahn Chah dit, c'est comme si votre esprit c'est une chambre et puis il y a une chaise qui est posée au milieu. Si les visiteurs, les obstacles, entrent et que la chaise est occupée par la pleine conscience, ils vont entrer, ils vont voir que la chaise est occupée puis ils vont ressortir. Mais si la chaise est libre, ils s'asseyent. Ajahn Chah qui dit « Si tu sais que toute chose est impermanente, tes pensées vont perdre peu à peu leur importance. Tu n'auras plus besoin de trop penser. Et quand une pensée émergera, tout ce que tu auras besoin de dire c'est « Ah, en voilà une autre, juste ça. » C'est Ajahn Tejaniya, je crois, ou bien Suzuki Roshi, je n'ai pas écrit. Pour comprendre les obstacles, il faut les contempler encore et encore. Que gagnez-vous à juste avoir de bonnes ou attendre de bonnes expériences? Si vous comprenez la nature des obstacles, ils vont se dissoudre. Une fois que vous pouvez avoir en main les obstacles, les bonnes expériences vont suivre tout naturellement. Beaucoup de yogis font l'erreur de chercher de bonnes expériences plutôt que d'essayer de travailler les obstacles. Et c'est vraiment comme ça. L'agitation se lâche avec le cinquième aspect de la concentration. Avec l'unification, l'agitation lâche. Elle a des racines bien enfouies. Et la tendance à se crisper quand elle vient, elle est aussi bien enfouie. J'ai fait une retraite de Chang il y a 2 ans, je crois, du bouddhisme zen. Et puis, il y avait de nouveau de l'agitation, puis j'étais toute surprise. Et j'ai très bien vu que la première chose que je faisais, c'était me mettre contre. Ah, intéressant. Mais le lâcher vient vite quand on a appris. C'est une compétence que nous développons. Pour la simplicité, et la gratuité est des qualités de service. C'est tout. Je me souviens une fois qu'on parlait de ça avec Ajahn Suchito, puis il me disait que, ma foi, voilà, sans tout, on faisait ça juste pour ça. Puis je lui disais, ouais, mais alors quoi, alors? Alors tout ça, mais ça sert à quoi? Et puis, il m'a répondu, eh ben, la pensée vient pas. C'est dingue. Ça, c'est l'Alzheimer précoce. J'ai raconté cette histoire déjà au moins plusieurs fois. Hein. La pensée vient pas. Enfin, en gros, c'est que ça sert à rien. On fait tout ça, ça sert à rien. Si ce n'est d'avoir le cœur bon. Mais rien pour le moi. C'est pas une gratification du moi. Ça me reviendra, je vous la raconterai quand ça me reviendra. Impec, comme il l'avait dit. Hein. Promis. Mais là, ça ne vient pas. Et nous pouvons aussi nous détendre parce que lorsque nous faisons l'effort de venir s'asseoir, et juste ça, de venir s'asseoir, le Dharma fait son œuvre en nous. Ça, c'est important de le savoir. Bien sûr, je fais mes efforts, ma part, mon truc, je crois souvent que je fais tellement bien ou tellement mal. Mais en fait, au moment où je viens m'asseoir, au moment où je décide de venir en retraite, au fond, ça n'est pas moi qui dépasse les obstacles. C'est le Dharma qui le fait pour moi. C'est cette interconnexion qui fait que lorsque nous appliquons l'exercice, que nous essayons d'avoir une continuité de pratique, c'est important. De ne pas avoir, ok, je fais tout bien dans l'assise, dans le Buddha Hall, et puis je sors, fini. Non, avoir une continuité de pratique, ça se passe. La sagesse nous ouvre le cœur naturellement. Je vous lis Nisargadatta. Le problème avec toi, ça n'est pas tes désirs. Le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas assez. Tu ne veux que ces petites choses. Pourquoi ne pas vouloir tout de la vie, la libération, la plénitude totale? C'est ça que tu devrais vouloir, la totalité. Et quand nous vivons des plaisirs, qu'ils soient spirituels ou pas, finalement, et d'une manière générale, dans nos vies ou en retraite, c'est tellement important de nommer mon désir de libération et de prendre refuge dans ce qui est universel. Parce que je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Mais quand je prends refuge, que je nomme mon intention de le faire pour les autres, d'aller vers le bon, alors je peux m'ouvrir aux plaisirs les plus intenses, je peux même m'y attacher avec de la manière la plus évidente. Si je prends refuge, le travail se fait. Ça sert à rien de toujours me dire « Ah, il ne faut pas que je sois attachée. » Parce que ce n'est pas comme ça. Je vois que je suis attachée. Oui, c'est tellement bon, je le veux. Ok, eh ben ma doudoune, vas-y, mais nomme ton intention. Dis bien que tu ne veux pas rester coincée là. Mais traverse. Nous pouvons traverser. L'océan de souffrance est l'océan d'extase. Parce que le but, c'est ni l'un ni l'autre. Je finis avec Ajahn Chah qui dit « Lorsque finalement l'esprit est pleinement conscient de toute la variété des états positifs et négatifs, il est capable de laisser de côté le bonheur et la souffrance, le plaisir et la tristesse, de laisser de côté tout ce qui est le monde. Et il devient ainsi celui qui connaît le monde. » Et celui qui connaît le monde, par définition, il a le cœur bon. parce qu'il est libre du karma, en tout cas dans l'instant. Dans l'instant où je me lie à la conscience universelle, c'est une protection merveilleuse. Nous pouvons prendre quelques minutes en silence.